France Musique.
L'âme sœur. L'histoire de Nathalie Bauer-Lechner et de Gustav Mahler. Un feuilleton proposé par Evelyne Bloch-Dano. Épisode 2. Amitié viennoise.
Bonjour, merci de nous être fidèles si vous avez suivi la première émission consacrée à Nathalie Bauer-Lechner et bienvenue si vous nous rejoignez. Nous avons évoqué son enfance à Vienne dans une famille de la bourgeoisie. Elle vit dans le centre de la capitale, Kärntnerstrasse, et est admise à 8 ans dans la classe de violon du professeur Helmos Berger, directeur du conservatoire. Elle suit aussi la classe de piano. La fillette n'a pas loin à marcher pour se rendre au conservatoire, situé alors dans le tout récent bâtiment du Musikverein, conçu par l'architecte Theophil Hansen et inauguré en 1870. Pour l'occasion, Johann Strauss a composé la valse Freud euch des Lebens. Pour l'heure, c'est une autre valse de Strauss que je vous propose d'entendre, Wienerblut, sang viennois. Quelle meilleure définition des Strauss, mais aussi de Nathalie Lechner, si attachée à sa ville natale et qui vécut toute sa vie.
Thank you.
Si l'on en croit Nathalie, elle n'a pas manifesté dans l'enfance de dons musicaux exceptionnels. Mais sa persévérance et son goût du travail lui permettent de triompher des difficultés. Cependant, méfions-nous, car elle est d'un naturel modeste et elle a tendance à minimiser ses réussites. En tout cas, cette éducation est paradoxale. Les filles de son milieu ne fréquentent pas l'école, elles sont instruites à la maison. C'est un défilé de précepteurs particuliers, souvent victimes de l'espièglerie des deux sœurs, Nathalie et Hélène. Pourtant, les filles Lechner peuvent suivre les cours du conservatoire. Nathalie relève elle-même cette contradiction et souligne que ses parents mettaient justement en avant cet apprentissage musical au détriment des études. Elle regrette car, dit-elle, son instruction a été désordonnée, superficielle et sans rigueur. Néanmoins, elle lit beaucoup et rêve de liberté. Paradoxe aussi de la place des femmes dans le monde musical en Autriche-Hongrie. Si l'étude d'un instrument, de préférence le piano, fait partie de l'éducation de toute jeune fille de bonne famille, au même titre que la broderie ou l'aquarelle, si elles peuvent être solistes ou jouer dans un orchestre de chambre, il leur est interdit de tenir le pupitre ou même de figurer dans un orchestre symphonique. À plus forte raison de diriger. Nathalie, féministe convaincue, reproche à son pays cette attitude qu'elle juge réactionnaire et attardée en comparaison de Berlin ou de Paris. Les femmes n'entreront à l'Orchestre philharmonique de Vienne qu'en 1997 et à ce jour, aucune encore ne l'a dirigée. Mais pour l'inauguration de la petite salle du Musikverein, aujourd'hui la salle Brahms, c'est Clara Schumann qui donna un récital. Thank you. Nathalie Lechner sort diplômée du Conservatoire de musique en 1872, violon et piano. Elle a 14 ans. Elle continue à prendre des cours de musique et vit le quotidien d'une jeune fille de son milieu. Mais c'est une nature rebelle, en tout cas l'éducation qu'on veut lui faire suivre. Par exemple, les interminables séances de coiffure auxquelles les filles doivent se plier pour domestiquer leurs longues chevelures lui sont insupportables. À 10 ans, elle a persuadé le coiffeur de couper ses cheveux en cachette de sa mère. Et pour délivrer aussi sa sœur Hélène, eh bien, elle a tranché par derrière l'une de ses nattes. Elle déplorera aussi dans son livre « Fragmente » l'état d'ignorance dans lequel sont laissées les adolescentes, en particulier dans le domaine sexuel. Être une noix blanche ne prédispose pas à comprendre la vie et explique bien des malheurs. Néanmoins, Nathalie aime se promener dans Vienne et le parc du Prater, pas toujours recommandé aux jeunes filles, n'a aucun secret pour elle.
Kinder, schaut zum Fenster aus, Muttertag und hin. Lacht die Sonne uns alle aus, ist denn das mein Wien? Malchi, nimm dein weißes Kleid mit dem blauen Band. Kinder, es ist höchste Zeit, fahren wir heut aufs Land. Heut greif ich ins Portemonnaie, das mein Wien wiedersehen. Es muss wieder Frühlingszeit sein. Im Prag verblühen wieder die Bäume. Es leuchtet ihr duftendes Grün. Drum küss nur. Vor mir Ringelspiel, immer rundherum. Das ist etwas fürs Gefühl und bringt keinen um. Was noch, Mutterl, was du gefühlt einst mit deinem Franz? Mutterl, wann die Musik spielt, rahm ich uns im Tanz. Ob's ein Schibrig, so ein Sprung, heut bin ich mal wieder jung. Es muss wieder Frühlingszeit sein. Im Prater blühen wieder die Bäume. Es leuchtet ihr duftendes Grün. Drum küss, nur küss, nicht zahm.
Im Prater blühen wieder die Bäume. Au Prater fleurissent à nouveau les arbres. Cette chanson m'évoque une des premières nouvelles de Stefan Zweig, « Printemps au Prater ». Elle raconte l'histoire d'une petite grisette qui, le temps d'une promenade au Prater avec un jeune bourgeois, goûtera fugitivement à l'amour et rêvera d'un autre destin. Hélas, en vain. Nathalie a-t-elle été un peu loin dans son désir de liberté? Craint-on pour sa vertu? Ou, comme son modèle George Sand, dont elle admire l'autobiographie « Histoire de ma vie », pense-t-elle qu'elle serait plus libre mariée? Le 27 décembre 1875, Nathalie épouse Alexandre Bauer en la cathédrale Saint-Étienne. Elle a 17 ans, il en a 39, il est veuf et père de 3 petites filles. En fait, de liberté, la voici belle-mère de 3 fillettes. Leur mère, Émilie, est décédée des suites de couches de la troisième. Alexandre Bauer, très attaché à son épouse, a néanmoins souhaité se remarier, sans doute pour donner une mère à ses enfants. C'est un chimiste, un chercheur et un professeur qui fait une très belle carrière à l'Institut de technologie de Vienne. Les photographies nous montrent un géant blond à favoris, l'air placide. Comment se sont-ils rencontrés? Nous n'en savons rien. Peut-être est-il un familier de la librairie universitaire de Rudolf Lechner. Lui aussi demeure Kärntnerstrasse. Pour la jeune femme, cette maternité par procuration, cette vie de femme d'intérieur, ce qu'elle ne sera jamais, est une épreuve, même si elle eut sans doute ses joies. En tout cas, elle n'aura jamais d'enfant et ne semble pas le regretter. Mais elle se montrera attachée à ses petites filles qu'elle élève le mieux possible. Elle n'a pas fait de confidences sur cette période de sa vie où elles ne nous sont pas parvenues. Cependant, elle expose ses conceptions de l'éducation des enfants dans son livre et on peut imaginer qu'elles sont issues de son expérience. Considérer l'enfant comme un être à part entière, ne jamais lui mentir ou lui masquer la vérité, lui expliquer les choses, y compris de la sexualité, avec des mots qu'il peut comprendre. Elle leur apprend aussi la musique et veille à ce que les petites filles aient une instruction complète. Cette vie terre-à-terre d'épouse et de mère, lui convient-elle pour autant? On peut en douter. La Vienne des années 1880 est une ville grouillante, en perpétuelle mutation, passionnée de musique et de conversation, à la fois conservatrice et progressiste. Dans les cafés, où l'on lit la presse internationale, où l'on retrouve ses amis, où l'on écrit parfois, s'élabore une vie sociale et intellectuelle très active. Chaque café a son image et sa spécialité. Le Landmann à la faveur des hommes politiques. Zum Roten Igel, celle des musiciens et de la Société des Amis de la Musique. Quant au Greensteidel sur la Michaelerplatz, il réunit artistes et intellectuels qui discutent autour des grandes tables rondes en marbre. Pour Nathalie Bauer-Lechner, les femmes doivent pouvoir sortir de chez elles et fréquenter les lieux publics comme les hommes, et avec eux. Nul doute qu'elle ne s'est pas privée de participer aux conversations des cafés viennois. Elle fréquente aussi ses amis du conservatoire et un groupe informel où se mêlent musiciens, compositeurs, écrivains, philosophes, médecins. Il y a là Victor Adler et Albert Spiegler, deux jeunes médecins. Emma Braun, l'épouse de Victor, le philosophe Siegfried Lipiner et bien d'autres. C'est un petit cercle en ébullition où fusent les idées pour refaire le monde, conjuguant socialisme, végétarisme, wagnérisme. C'est ainsi qu'à deux reprises, Nathalie revoit Gustav Mahler. L'adolescent est devenu un jeune homme un peu sauvage qui fréquente l'université après avoir obtenu son diplôme du conservatoire. Il s'intéresse à la littérature, à la philosophie, il lit Nietzsche et Schopenhauer, il voue un culte à Goethe et à Wagner. La première vraie rencontre a lieu chez Rudolf Pichler, un camarade du conservatoire qui habite chez ses parents dans la même rue que Brahms, Karl Gasse, en face de l'église Saint-Charles. Deuxième rencontre de Nathalie Bauer-Lechner avec Gustav Mahler a lieu quelques mois plus tard. Richard Ritter von Kralik participe aussi au cercle et sa philosophie socialo-poético-spiritualiste fascine les jeunes gens. Il est un peu plus âgé. Pour ce wagnérien au front immense et au regard concentré, le végétarisme figure la voie vers la religion du futur, un temps où l'on pourra enfin communiquer avec l'au-delà. Il organise même des séances de spiritisme. Kralik vit avec sa jeune sœur Mathilde, pianiste, qui a suivi elle aussi les cours du conservatoire et compose sur des textes de son frère. Elle deviendra l'une des artistes les plus célèbres d'Autriche, une fierté pour les féministes comme Nathalie.
Deutschland, Deutschland, über alles, über alles in der Welt.
Les soirées chez les Kralik sont connues pour leur ambiance débridée, à l'unisson de l'exaltation du frère et de la sœur, aussi originaux l'un que l'autre. Le vin coule à flot. On chante à tue-tête le Deutschland über alles, accompagné par Mahler au piano. Les conversations sont animées et le bruit augmente au fil de la nuit.
Deutschland,
Ce soir-là, Gustav a régalé les convives d'une incroyable interprétation au piano de l'ouverture des maîtres chanteurs.
On aurait dit sous ses doigts un orchestre entier.
Il y a mis une telle passion que, comme le jour de leur rencontre au conservatoire, elle a deviné un talent exceptionnel. Ce soir-là, on a placé Nathalie et Gustav côte à côte à table et après un début hésitant, ils n'ont plus cessé de bavarder. Ils éprouvent la même admiration pour le Wilhelm Meister de Goethe. Ils se sont trouvés.
Thank you.
c'est avec un autre que Nathalie noue une liaison passionnée qui va aboutir à la séparation, puis au divorce avec son mari. Siegfried Lippiner est un jeune poète et philosophe dont les premiers textes ont soulevé l'admiration de tous. Gustav Mahler lui voue un véritable culte et leur amitié survivra à une longue brouille due à l'hostilité d'Alma. Mais n'anticipons pas.
Come mit mir hinaus ins Freie, in des Waldes heilge Ruh. Komm mal seine schönste Feier, liebste Blume, du. Komm mit mir in lichte Ferne, auf die Höhen in leichtem Schritt, lass mich
fréquentent le même milieu et ont des amis communs, les chemins de Nathalie et de Gustav Mahler se poursuivent néanmoins chacun de leur côté. Soucis domestiques et sentimentaux pour l'une, sur lesquels elle reste très discrète, apprentissage de son métier de chef d'orchestre pour l'autre. La carrière de Mahler l'éloigne de Vienne où il ne revient que de temps à autre. Siegfried Lippiner, qui avait divorcé de sa première épouse, est libre, mais il se remarie avec une autre, laissant Nathalie éplorée, solitaire et perdue. Quand Gustav, de passage à Vienne, encourage ses amis à venir lui rendre visite à Budapest, où il dirige l'opéra, Nathalie n'hésite pas. Elle lui écrit. La réponse ne tarde pas.
Cher ami, vous m'ouvrez une perspective charmante et je vais vivre les prochains jours dans la plus joyeuse attente. Venez donc. Nous avons tant de choses en commun que nos chemins auraient déjà dû se croiser depuis longtemps si je n'étais pas un tel malchanceux. Écrivez-moi en temps voulu le moment de votre arrivée pour que je puisse vous attendre à la gare. Avez-vous une idée précise de logement ou dois-je m'en occuper ? Vous êtes une marcheuse passionnée, n'est-ce pas? J'ai déjà mon programme pour la ville et la campagne. Je veux vous montrer Pest sous son meilleur jour. Il faut pour cela en être loin. Venez, mais bien sûr. Nous nous connaissons déjà. Maintenant, je suis curieux de savoir si nous allons beaucoup nous taire ou beaucoup nous parler. Salutations de votre sincèrement dévoué, Gustav Mahler. Budapest, 14 octobre 1890.
Comment résister à une telle invitation ? C'était Amitié viennoise, le deuxième épisode de L'âme sœur, l'histoire de Nathalie Bauer-Lechner et Gustav Mahler, un feuilleton proposé par Evelyne Bloch-Dano d'après son livre L'âme sœur aux éditions Stock. Un merci tout particulier à Charlotte Landru-Chandès et à Christophe Dillis qui ont prêté leur voix à Nathalie et à Gustav. Équipe de réalisation, Cédric Chatelus, Charlotte Landru-Chandès et Béatrice Trichet.
À réécouter sur francemusique.fr.